Bonjour, nouvelle édition du 7-8 Politique sur TVFIL et invité aujourd'hui Olivier Augustin, le porte-parole de Lutte ouvrière dans les Yvelines. Il défend les couleurs de Nathalie Arthaud, candidate créditée de moins de 1% des intentions de vote. Alors quels sont les enjeux du scrutin pour ce parti? Quel rôle jouer? Ses réponses dans un instant. Olivier Augustin, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez donc Nathalie Arthaud, candidate communiste. Elle se revendique comme telle, trotskiste également. Ça signifie quoi, ces deux notions pour vous aujourd'hui?
Pour nous, c'est des notions très importantes. C'est notre carte d'identité à travers tout notre mouvement, tout ce que nous, on a à dire. Et là, en particulier, à l'occasion des élections présidentielles, pour bien marquer notre camp en tant que communiste, en tant que trotskiste, en tant que révolutionnaire aussi, on tient à affirmer le camp des travailleurs et à mettre vraiment la priorité pour défendre les intérêts des travailleurs en ce qui concerne les problèmes de tous les jours, y compris, bien sûr, le chômage, les conditions de vie, les conditions de travail et les salaires. Et on tient vraiment à marquer notre campagne en défendant ce camp-là. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls vraiment à dire tout ce qu'on dit justement à propos du chômage, qui en a ras-le-bol aujourd'hui, que dès qu'on parle du chômage, c'est pour attaquer les chômeurs, dès qu'on parle de ceux qui se mettent au niveau de la sécurité sociale, de tous ceux qui se mettent en arrêt maladie, c'est pour nous dire qu'on serait trop malade, ou même en ce qui concerne les salaires, ce serait pour dire qu'on coûterait trop cher. Eh bien, nous, on prend le contre-pied de tous ces arguments-là pour mettre en avant notre politique et pour mettre en avant l'intérêt des travailleurs. C'est notre priorité.
On va venir sur quelques points du programme. Vous avez mentionné aussi cette notion de révolutionnaire. Je vais lire un passage extrait de votre site internet. Lutte ouvrière entend préparer les travailleurs à s'organiser pour affronter la répression, mais aussi pour imposer par la force, s'il est besoin, la volonté de la majorité de la population à la minorité de possédant. Ça veut dire quoi? Qu'il faut une révolution, qu'il faut que le sang coule?
Regardez, non, c'est pas ça. De toute façon, le problème, c'est qu'il coulera indépendamment de nous. Et il coule aujourd'hui indépendamment de nous dans pas mal de pays du monde. Mais regardez, pour revenir en France, ce qui s'est passé il y a moins d'un an à propos des lois El Khomri, il y avait une majorité de la population ouvrière, salariée, qui était, et bien sûr tous ceux qui sont privés d'emploi, qui étaient vraiment contre cette loi El Khomri. Et bien, le gouvernement a passé en force, pas simplement avec l'article 49.3, mais aussi avec des escadrons de CRS dans toutes les manifestations auxquelles des milliers, voire même des millions de salariés, de travailleurs ont participé. Eh bien, il a fallu se frotter contre les CRS et compagnie. Eh bien, c'est cet état de choses que nous, on dénonce. Bien sûr, nous, il faut absolument qu'on se mobilise, il faut absolument que le monde du travail, eh bien, ils disent ce qu'il a à dire et qu'on ait comme objectif, pour revenir sur le côté révolutionnaire des choses, de dire qu'il y en a ras-le-bol, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit les capitalistes qui aient la main sur toute l'économie et qui décident du jour au lendemain de pouvoir fermer une entreprise et de mettre sur le carreau des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés, comme entre autres par rapport à Peugeot, une usine là, qui est dans un groupe quoi, qui est vraiment dans l'Île-de-France aussi et qui a mis sur le carreau en l'espace de 3 ans 17 000 travailleurs avec la fermeture d'Aulnay, mais pas seulement. Et en tout cas, nous, ça, on le dénonce. Et cette violence-là, pour nous, c'en est une vraie violence que nous, on condamne et qu'on condamne, bien sûr, la politique des patrons qui est de mettre au chômage des dizaines
de
milliers
de salariés. Vous parlez de la bourgeoisie. C'est quoi la bourgeoisie? Pour bien clarifier ces éléments de langage, la bourgeoisie...
Regardez autour de vous, Bettencourt, Arnaud, à eux seuls, ils possèdent des milliards et des milliards et c'est des gens qui vivent du travail des autres et s'enrichissent du travail des autres. C'est des gens qui s'accaparent justement toutes les richesses que le monde du travail y produit. Nous-mêmes, en tant que travailleurs, nous sommes à la source de toutes les richesses, que ce soit de la table sur laquelle ou des sièges sur lesquels on est assis, ou de la table là qu'on a devant nous, du costume que vous portez, des micros, des caméras et des télés. C'est nous qui sommes à la source et à la création de toutes ces richesses-là. Et pourtant, c'est nous qui n'en profitons pas. Et c'est nous qui devrions nous retrouver au chômage et qui devrions accepter des salaires à moins de 1100, voire 1200 euros, à peine le SMIG. Eh bien, ce monde-là, en tout cas, nous, on le conteste. Alors, la grande bourgeoisie, bien sûr, elle s'accapare et elle vole toutes ces richesses-là pour justement... pour remettre dans le monde de la finance, dans et faire qu'ils gagnent encore davantage d'argent et de plus en plus d'argent.
Vous croyez aujourd'hui au processus électoral? Je vous pose cette question parce que les élections, finalement, Lutte Ouvrière n'y croit pas vraiment.
Pour nous, c'est un moyen d'exprimer un certain nombre d'idées. Mmh. C'est un moyen de mettre en avant notre programme. Et donc, notre programme, c'est là où il est important. Mais bien sûr que pour faire aboutir ça, on ne compte pas sur les élections. Pour nous, c'est un programme de lutte. Mmh. Ce n'est pas un programme, comme on entend souvent d'autres candidats, électoraux, avec des mesures où on prendrait de l'argent ici ou faire un traficotage de choses comme ça. Nous, c'est un programme de lutte avec... comme première mesure, mais vraiment la plus importante, c'est l'interdiction des licenciements. C'est la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire.
L'augmentation même du salaire.
Hein. Et bien sûr, 300 avec euros, 1800 euros salaire minimum, avec une augmentation bien sûr générale de 300 euros. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les entreprises dans lesquelles on est confronté avec des salariés, et nous-mêmes, à gagner quoi, 1100, 1200 euros. Et je vous promets que, moi je travaille à Renault-Flin, donc dans la région, et je vous promets que pour avoir un salaire de 1400 ou 1500 euros, ce qui est à peine suffisant même pour vivre, eh bien, on est obligé de travailler, voire un ou deux samedis supplémentaires par an, par mois, et on arrive à peine à s'en sortir. Alors, le 1800 euros net, bien sûr, c'est le minimum pour pouvoir payer son loyer, ses traites, et puis, si jamais on a des incidents avec sa voiture ou d'autres, eh bien, pour pouvoir pallier à la moindre difficulté. Mais c'est vraiment le minimum. Oui, bien sûr, c'est une exigence du monde du travail, et aujourd'hui, il est intolérable de pouvoir se retrouver avec des salaires vraiment au ras des pâquerettes.
Comment se passe la campagne sur le terrain aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'elle est plus difficile, cette campagne présidentielle?
Pas simplement, non, elle n'est pas difficile. Nous, on est content d'engager des discussions, on est content de se retrouver sur les marchés, à la porte des entreprises, partout là où vivent nos camarades, partout là où on vit nous-mêmes. On est en contact avec des dizaines, voire même des fois des centaines de personnes au fur et à mesure des jours de la campagne, pour y défendre notre programme, pour y défendre nos idées. Et l'accueil qu'on reçoit, y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'inquiétudes et surtout il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, un peu ce que je disais tout à l'heure, que de se voir nous-mêmes responsables de tout, alors que c'est nous-mêmes qui produisons, c'est nous-mêmes qui sommes vraiment à la source de toutes les richesses produites. Et nous, il faudrait encore une fois qu'on fasse des sacrifices, qu'on se serre la ceinture. Il faudrait travailler 39 heures, payer 35. Il faudrait même accepter de travailler jusqu'à 65 ans, quand on les entend, tous ces candidats-là qui se présentent aux élections. Et bien là, il y a de quoi être en colère. Alors notre candidature, la candidature de Nathalie Arthaud, c'est pour exprimer cette colère-là, c'est pour exprimer la colère du camp des travailleurs.
Une colère qui ne s'exprime pas toujours dans les urnes. On va revoir le résultat tout de même de 2012 dans le département des Yvelines, justement, dans notre département. Vous le voyez, c'est difficile de transformer cette colère dans les urnes pour Lutte Ouvrière.
C'est peut-être difficile, mais mine de rien, 0,35, si je vois bien.
0,35, tout à fait, dans le département pour Nathalie Arthaud.
Ça représente environ 200 000, voire 220 000 personnes qui ont voté, salariés, travailleurs, qui ont voté pour nos idées, pour notre programme. Et ce n'est pas simplement un chiffre. Hein. Ça représente aussi, si l'ensemble de tous ces salariés-là, de tous ces gens-là qui ont exprimé leur adhésion à notre programme, eh bien, se mettaient dans les rues pour y défendre justement les exigences du monde du travail en ce qui concerne le chômage et les salaires, etc. Et ben ça représenterait vraiment une force. Regardez ce qui se passe en Guyane. En Guyane, il y a 15 jours ou 3 semaines, il ne se passait pas forcément grand-chose. Et là, il y a eu un grand mouvement de révolte, un grand mouvement de grève qui a mis dans les rues des centaines de milliers de travailleurs, de 300, 400 000. Et ben ça marque les... C'est ça qui peut faire avancer les choses. Eh bien, nous, on compte sur cette force-là, sur cette force collective pour faire aboutir ces revendications-là. Et 200 000 travailleurs en colère, eh bien, je vous promets, ça pèse. Ça pèse.
Juste un mot, Olivier Augustin, pour Lutte Ouvrière. On a entendu dans ce reportage des électeurs dire « le vote utile, c'est important, on a peur du Front National ». Vous allez subir ce vote utile, en quelque sorte, aussi, vous pensez?
En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le vote utile, le seul vote utile, c'est de voter pour son propre camp et pour les idées de son camp, à savoir, et encore une fois, l'interdiction des licenciements, vraiment stopper l'hémorragie du chômage et, bien sûr, pas un salaire en dessous de 1800 euros net. Et ça, c'est vraiment ces idées-là que nous, on a envie de mettre en avant. Et le vote utile, et le seul vote vraiment utile pour la population, c'est ça. Maintenant, si les électeurs se reportent sur tel ou tel autre candidat, de toute façon, tous les autres candidats se situent vraiment sur un autre terrain, qui est celui du camp des patrons, du camp des capitalistes. Et vraiment, ils sont vraiment situés sur ce terrain-là. Et ils ont
des 10 autres candidats. Bien sûr. L'électorat jeune pour Lutte Ouvrière, Vous leur dites quoi, l'électorat jeune?
Bah, qu'il faut se mettre en colère. Qu'aujourd'hui, quand on est jeune, il y en a un sur quatre qui est au chômage ou qui galère de petit boulot en petit boulot. Et à un moment donné, bah, faut que la jeunesse ouvrière, bah, on emboîte le pas des luttes et qu'il faut vraiment qu'on, encore une fois, qu'on fasse entendre les exigences par rapport au chômage, par rapport au salaire et compagnie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la précarité. Dès qu'on finit ses études, pour ceux qui ont la chance de faire des études, eh ben, c'est soit les petits boulots, soit la précarité, c'est soit des périodes vraiment de grosses galères, quoi. Et aujourd'hui, bah, le seul avenir que cette société pourrait nous offrir, c'est ça. Et bah, ça, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment obliger les grandes entreprises, entre autres, mais aussi les petites et moyennes entreprises, à embaucher et à faire que tous les postes précaires, tous les travailleurs en intérim, etc., et bah, puissent accéder au moins à un contrat de travail à durée indéterminée. Ça, c'est essentiel pour pouvoir justement essayer de voir les lendemains un peu autrement que ce que les jeunes aujourd'hui y voient, quoi.
On va peut-être demander à notre invité d'aujourd'hui
qui représente réagir un peu là-dessus, parce que déjà les impôts, il faudrait déjà que les grandes entreprises elles payent vraiment ce qu'elles doivent au niveau des impôts. Quand on voit des grandes entreprises comme Google ou même comme Total, Elf, Fina, etc., justement ne pas payer et ne pas mettre la main à la poche et ne pas payer tout ce qu'ils doivent tout simplement à l'État, ça c'est quand même révoltant. D'autre part, payer des impôts, ça voudrait dire avoir un travail. Et avoir un travail aujourd'hui, bah, c'est quand même la grosse galère pour plus de 5 millions de salariés aujourd'hui qui sont privés d'emploi. Ça, j'ai quand même envie de mettre l'accent
et
dessus
sur la
et de dénoncer.
Sur la proposition de Jean-Luc Mélenchon qui a été détaillée, là, sur cette idée d'impôt universel.
Bah, le problème, c'est déjà, encore une fois, que les grandes entreprises, au moins, elles payent ce qu'elles doivent. Mmh. Et déjà, après, on verra ce qui se passe. Mais au moins
Il y a un volet grandes entreprises dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est vraiment, ça cible, on va dire, les particuliers, ceux qui.
Regardez ce qui s'est passé en Suisse. Ceux, justement. Ceux qui ont pas mal d'argent et qui ont été faire des placements en Suisse et qui sont revenus ensuite pour se mettre au niveau de la loi de l'État français, ils sont revenus, ils ont rapatrié leur somme d'argent, etc., en France. Mais il y en a combien ? Il y en a combien qui ne l'ont pas fait ? Et puis ça représente combien d'argent ? Là, c'est des sommes quand même monumentales, c'est des milliards d'euros.
Jean-Luc Mélenchon estime que c'est 80 milliards d'euros qui échappent
justement et qui manquent cruellement dans les caisses de l'État pour créer des postes d'enseignants, pour créer des postes dans les hôpitaux, pour créer des postes dans les chemins de fer, etc., partout là où c'est nécessaire. Pour la vie de la collectivité. Et ce vol, parce que ça, c'est carrément du vol, bah bien sûr, c'est injuste et franchement, c'est révoltant.
Les personnes en situation de handicap qui se sentent tout le temps oubliées des propositions
c'est
des
révoltant.
Politiques.
C'est révoltant, d'autant plus que les richesses existent. Il suffit de prendre les 75 milliards là, d'euros de dividendes là, au niveau du CAC 40 de toutes les entreprises qui sont cotées en bourse, les 40 plus grosses, eh bien, c'est l'équivalent de 75 milliards qui vont être redistribués aux actionnaires. Et qui vont être après replongés dans le monde de la finance et donc à fond perdu vraiment, et ben, la totalité de cette somme-là, si elle était justement dirigée vers tous les personnes handicapées, les travailleurs handicapés, vers tous ceux qui sont justement qui ont
donc
des accidents de la vie.
Il faut augmenter ces allocations handicap, les
d'une
aides,
part, et toutes les aides et le personnel au service de tous ces gens-là pour leur permettre de pouvoir vivre une vie dignement. Mmh. Parce que là, on assiste vraiment à un délabrement de leur vie à tous les niveaux. Quoi.
Plus largement pour lutte ouvrière, il y a une médecine gratuite aussi sur les problématiques de santé. L'idée, c'est de faire une médecine gratuite en récupérant l'argent des groupes industriels, des particuliers.
Bien sûr, et cet argent-là, il existe et il serait bien mieux au service de toute cette population-là plutôt qu'encore une fois de pouvoir servir aux banques pour financer, quoi, pour jouer au monde du Monopoly et au monde de la finance. Quoi.
Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission et j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à une autre campagne, le troisième tour en quelque sorte, la campagne des législatives, puisque l'élection va succéder à la présidentielle très rapidement dès le mois de juin. Lutte ouvrière sera aussi représentée dans le département des Yvelines. Vous-même, vous serez candidat une nouvelle fois, vous l'avez déjà été en 2012, candidat dans la troisième circonscription, une circonscription détenue jusqu'à présent par la droite. Henri Guénot en est aujourd'hui le député, même s'il ne sera pas soutenu par les Républicains. Quelles sont vos ambitions dans cette troisième circonscription, qui est peut-être l'une des plus difficiles du département?
Peut-être, mais en tout cas dans laquelle il y a des centaines de milliers de gens et de travailleurs, et auxquels nous on s'adressera, auxquels nous on présentera encore une fois notre programme, le programme de Nathalie Arthaud, le programme de la défense des intérêts des travailleurs, du camp des travailleurs. valeurs et encore une fois, on mettra en avant, et bien sûr, l'interdiction des licenciements et on mettra en avant un salaire minimum de 1 800 euros, la répartition du travail entre tous et surtout, et ça on n'en a pas discuté, mais du contrôle des comptes des grandes entreprises. Parce que ça, c'est vraiment une mesure qui fait partie justement de l'ensemble de notre programme et qui est indispensable, c'est qu'on puisse savoir où passe l'argent, qu'on puisse savoir qu'est-ce que devient telle ou telle somme d'argent et à qui elle est, il a été distribué et pourquoi il peut servir. Et tout ça, ça nous mettrait vraiment en lumière eh bien, le vol de toutes les entreprises-là sur justement toutes ces richesses-là, encore une fois, dont nous-mêmes nous sommes à la source. Et nous irons dans ces législatives-là pour affirmer ce camp-là.
Sur les différentes candidatures lutte ouvrière, vous serez présent dans l'ensemble du département ?
Bien sûr.
Il y aura 12 candidats dans les 12 circonscriptions des
Yvelines. Bien sûr, oui.
Qui seront présents pour lutte ouvrière, les différents candidats qui commencent à se manifester. On peut citer aussi dans la 11e circonscription Jean-Michel Fourgous, le maire d'Elancourt qui entend reprendre son siège perdu aux dépens, en tout cas au profit de Benoît Hamon. Le Front National a aussi annoncé qu'il y aurait 12 candidats dans chacune des 12 circonscriptions. On imagine bien évidemment que les résultats des différentes formations vont varier en fonction du résultat à la présidentielle. Ce sera le vrai test, la présidentielle aussi pour lutte ouvrière et pour ensuite...
Bien sûr, pour nous, c'est encore une fois, c'est une façon d'être au contact, c'est une façon de pouvoir discuter, de pouvoir être présent comme on l'est durant toute l'année, mais encore une fois aussi à travers ces élections-là, présidentielles comme législatives, pour mettre en avant notre programme, pour vraiment mettre en avant nos idées et défendre toujours notre camp, le camp des travailleurs.
Merci d'être venu pour cette édition du 7-8 politique.